La première,
11h midi,
question clé.
Question clé
avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. Notre question du jour, doit-on réellement et obligatoirement passer par la case prison alors qu'il existe des alternatives aux peines de prison? Et d'ailleurs, au mois de novembre avaient lieu les journées nationales de la prison dont le thème cette année était « Réinsertion, une illusion ?» point d'interrogation. L'occasion surtout de mettre en lumière toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui autour de ce milieu un peu particulier, le milieu carcéral. Mais la prison est-elle un passage obligé? Eh bien pas forcément, puisqu'il existe en Belgique un cadre qui permet de proposer, dans certaines conditions, des alternatives. On parle de médiation pénale, de sursis ou suspension probatoire, de peine de probation autonome. Illustration aujourd'hui, illustration plutôt concrète avec une ASBL qui agit depuis plus de 20 ans maintenant dans ce domaine particulier lui aussi. Arpège Prélude va nous donner l'occasion de comprendre ce qu'est la médiation judiciaire, la médiation pénale et les alternatives qui existent aujourd'hui, ainsi que leur utilité, puisqu'après 20 ans d'expérience, je pense qu'on peut déjà commencer à tirer évidemment un bilan de la situation. Deux invités pour nous parler d'Arpège Prélude, mais vous aussi qui pouvez intervenir en nous donnant votre avis sur la question, témoignage, réflexion également au 02 737 26 06. Vous pouvez utiliser vos messages par SMS au 60 31 75 centimes le message ou aller sur le site lapremière.be en cliquant sur l'icône de l'émission. Vous n'avez pas le temps de noter le numéro de téléphone, c'est pas grave, on vous donne l'occasion de le faire maintenant.
Partagez votre expérience au 02 737 26 06.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé.
Bonjour. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans une formation prélude, nous vous proposons de suivre trois personnes à partir du moment où elles commettent un délit. Voici Monsieur A. Il est dans un café après une journée de travail contrariante. Il se fait bousculer par un homme et le ton monte. Monsieur A frappe et blesse l'homme qui porte plainte. Voici Madame B. Elle est entrée par effraction dans une maison en l'absence de ses propriétaires et en ressort les bras chargés. La police, alertée par un passant, l'attend à la sortie et l'arrête. Enfin, voici Monsieur C. qui braque une librairie avec une arme factice. Il sera reconnu grâce aux caméras de surveillance et arrêté peu de temps après. Monsieur A, Madame B. et Monsieur C. vont tous trois se retrouver face à la justice. Chacun se verra proposer une formation prélude comme condition dans différents cadres juridiques. La médiation pénale, la suspension ou le sursis probatoire et la peine de probation autonome.
Et c'est là que l'histoire d'Arpège Prélude commence. Arpège Prélude, c'est une association sans but lucratif active depuis 1995. Sa principale activité est d'organiser des mesures judiciaires alternatives en groupe avec des auteurs de délits adultes. L'association s'est bien sûr développée depuis 1995 et aujourd'hui, eh bien, on va parler de son travail avec Sandra Delafaye. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes criminologue et formatrice au sein du projet Prélude. On va en parler avec vous, bien sûr, de ce projet. Puis Martin Amoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et formateur au sein du projet Prélude depuis un certain nombre d'années aussi. On va parler avec vous de ce travail qui est effectué, mais surtout de la nécessité aujourd'hui, peut-être, de retrouver ce type de possibilité d'alternative à l'enfermement carcéral. On va parler des conditions avec vous, bien sûr, et surtout expliquer comment ça se passe, quelle est l'utilité des démarches que vous effectuez aujourd'hui. Sandra Delafaye, ça fait longtemps que vous travaillez au sein de cette association.
Ça fait plus de 16 ans maintenant.
Ouais. Depuis le début ?
Non, pas tout à fait le début, mais c'était relativement le début. Et donc, effectivement, c'est parti de quelques personnes et puis ça s'est développé au fur et à mesure pour être présent dans tous les arrondissements judiciaires francophones de Belgique.
Et comme je le disais, il existe un cadre juridique en Belgique qui permet d'éviter ou d'avoir la possibilité d'offrir, entre guillemets, des alternatives à l'enfermement carcéral et de donner aussi la possibilité, pourquoi pas, d'une meilleure vision de la situation à la fois pour les victimes et pour les auteurs de certains actes.
Mais donc, il y a plusieurs cadres juridiques. C'est soit pour éviter d'aller au tribunal, c'est ce qu'on appelle la médiation pénale, soit c'est une fois que les personnes passent au tribunal, là, le juge peut prononcer une suspension ou un sursis probatoire et depuis l'année dernière, la peine de probation autonome. Et dans ce cadre-là, les personnes ont une série de conditions à respecter sous la surveillance d'un assistant de justice et une des conditions possibles peut être la formation prélude. Voilà.
Vous intervenez dans les deux cas, la médiation pénale aussi, ou c'est quelque chose qui, pour vous, est laissé de côté?
Non, non, la médiation pénale, la formation peut être, prélude peut être une condition de médiation pénale également.
Donc vous pouvez intervenir avant et après un jugement?
Tout à fait.
Pour l'éviter ou une fois que le jugement a été prononcé. On va tout de suite mettre les choses au point, vous ne faites pas de la thérapie, psychothérapie, enfin, vous ne faites pas de la psychothérapie, non, l'arpège prélude, ce n'est pas le but. Ce
n'est pas le but, puisque nous avons un programme préétabli avec un objectif qui est clair et qui est le même pour toutes les personnes qui viennent dans le groupe, qui est de les responsabiliser par rapport au délit commis. Donc c'est vraiment les faire réfléchir par rapport aux faits qui leur est reproché par la justice, réfléchir sur un petit peu mais qu'est-ce qui les a amenés à agir comme ça ce jour-là, dans ce contexte-là, puisque la plupart des gens ne commettent pas des délits tous les jours, et de voir un petit peu quelles sont toutes les implications, les conséquences que ce délit a eues, que ce soit pour eux, leur entourage, mais aussi évidemment pour la victime et l'entourage de la victime. Donc on va vraiment essayer d'élargir cette réflexion, cette prise de conscience par rapport au délit.
Ce qui est intéressant, c'est que comme vous travaillez là depuis 16 ans, vous avez certainement vu la situation évoluer. Comment vous avez ressenti les choses?
Vous parlez de la situation en prison, principalement,
oui. Justice. Est-ce que la justice fait suffisamment appel à vous? Est-ce que c'est bien connu? Est-ce que le public connaît aussi ce type d'alternative?
Non, ça s'appelle toujours alternative, d'ailleurs, oui. Et je pense que c'est un mot qui est vraiment bien choisi, puisque, effectivement, d'une part, c'est une alternative par rapport à la peine principale majeure qui est l'emprisonnement et qui reste l'emprisonnement, et alternative dans l'idée que ce serait un peu comme une petite route qui mène au même objectif que la prison, mais à côté de cette autoroute, certes dégradée, mais en tout cas de cette autoroute qu'est la prison, bah, il y a d'autres voies possibles qui sont assez peu connues du grand public et assez peu utilisées en justice de manière générale.
Pourquoi d'après vous? Parce qu'on n'arrête pas de dire, enfin, je mets à la place de n'importe qui, je me dis, j'entends constamment dire que les prisons sont surpeuplées. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus souvent appel à des alternatives?
Alors l'alternative, elle repose quand même sur un pari différent, qui est le pari sur l'avenir plutôt que la sanction du passé, mais ça reste une sanction. Hein, donc l'idée, c'est quand même toujours de venir sanctionner un comportement qui a été jugé contraire à la loi, hein, la loi qui protège quand même la vie en société. Et l'objectif de cette sanction, c'est quand même, un des objectifs en tout cas, c'est d'éviter le risque de récidive, hein, puisqu'on en parle beaucoup, je pense, pour protéger la société. Alors il y a différentes manières, différentes options pour arriver à ça, pour essayer de l'atteindre. Il y a la prison qui est la plus utilisée, qui est, moi je pense en tout cas, inefficace par rapport à ça, parce qu'il y a peu de travail qui est fait avec les détenus. Il y a d'autres voies qui sont utilisées, comme les alternatives, qui visent à faire réfléchir l'auteur, le responsabiliser, mais qui peuvent être vécues comme, entre guillemets, douces, ou mesures de faveur, nous disent certains, parfois, qui voudraient quelque chose de plus répressif, qui fasse mal. Hein. On est encore avec cette image de la justice pénale qui doit faire mal, alors que parfois elle fait mal, mais est-ce qu'elle est efficace pour autant pour l'avenir? Là, c'est toute la question.
On sait que les taux de récidive sont quand même assez importants, hein, surtout dans certains cadres. Mais quand vous dites que le travail de la réinsertion n'est pas fait, il faut peut-être préciser que ce n'est pas par manque de volonté des associations qui travaillent dans le milieu carcéral, c'est essentiellement par manque de moyens. Mmh. Et malheureusement, c'est toujours là que le bât blesse. C'est que si les moyens étaient développés, peut-être qu'on aurait des résultats. Mais on ne le sait pas, puisqu'on ne fait jamais ce pari-là.
Voilà. Et puis de toute façon, la prison, même si on donne les moyens pour travailler en prison, la prison désinsère. Puisque les personnes. Faut savoir qu'on a parfois l'image du délinquant comme si c'était le délinquant de carrière, celui qui s'inscrit vraiment.
Oui, depuis son adolescence.
Voilà, et qui s'inscrit tout à fait à côté, en marge de la société. Alors que nous, on voit dans nos groupes que, effectivement, on a certaines personnes qui ont un vécu comme ça déjà depuis l'adolescence, de décrochage scolaire et ainsi de suite. Mais on a aussi monsieur et madame tout le monde. Quand on parlait de coups et blessures volontaires, ça peut être une bagarre suite à une soirée, ça peut être deux parents d'élèves qui, à la fin de s'y faire, s'empoignent et il y en a un qui met un coup à l'autre.
J'ai déjà vu ça.
Ben oui, et c'est des coups. Ce sont des coups et blessures. Oui. Or, pour des personnes comme ça, si on devait n'avoir comme sanction unique la prison, vous imaginez les dégâts que ça cause. Ça veut dire que ça désinsère, c'est une perte de travail, toute la vie familiale en est bouleversée. donc proposer autre chose peut-être plus adéquat, en tout cas dans de nombreux cas.
Justement, Martin, est-ce que c'est pas choquant pour le public de se dire mais tout délit doit être puni et que finalement, dans l'esprit collectif, la punition, c'est la prison et c'est la seule possibilité. Que en dehors de cela, les peines alternatives ont ce côté un petit peu il n'y a pas de punition.
Mais c'est clair que c'est quelque chose qui a dans l'air du temps et dans la pensée globale, qui est qu'une sanction doit être que répressive et que dès qu'il y a quelque chose de positif comme un apprentissage ou une formation ou quelque chose d'éducatif, on a l'impression qu'on perd le côté sanctionnant. Et c'est ça vraiment que l'alternative propose, c'est qu'on peut sanctionner, on peut être contraignant tout en proposant quelque chose de positif. Et c'est aussi quelque chose, quand je dis dans l'air du temps, mais voilà, c'est un pari sur l'avenir comme a dit Sandra. Et c'est quelque chose qu'on vise au long terme. Quand on voit des mesures de sécurité de plus en plus pour une sécurité dans la société, on va mettre des gens dans la rue, c'est quelque chose dans le court terme. Nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose dans le long terme. On va donner les outils à chacun de pouvoir viser la sécurité autour de soi, mais la sécurité pour soi-même aussi, et pouvoir se gérer. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut se dire, ça peut être sanctionnant tout en donnant quelque chose de positif, et c'est quelque chose qu'il faut viser au long terme.
Je vous propose d'y revenir dans un instant, on va voir quelques cas concrets. On va retrouver Madame B, Messieurs A et C, pour voir un petit peu ce qu'il en advient lorsqu'il passe par une formation prélude. Et on détaillera tout cela, bien sûr, avec vous, qui pouvez toujours intervenir. Nous sommes en 2017 et les peines alternatives aux mesures carcérales sont encore méconnues dans le public. On en parle aujourd'hui avec un exemple concret, il s'agit de l'ASBL Arpège Prélude. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les informations sur leur site Arpège Prélude. On vous donnera l'adresse de ce site. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur ce qu'est la médiation pénale. Nous, on vous en donnera un petit aperçu avec un extrait de reportage réalisé par Dominique Burger, qui a été diffusé au JT il y a peu, d'ailleurs, pour vous montrer quels sont les exemples aussi de ce qu'est cette médiation pénale, avec la possibilité de découvrir eh bien, que ce n'est pas toujours ou tout noir ou tout blanc lorsque l'on parle à la fois des personnes auteurs de faits ou même de leurs victimes. On va revenir aussi sur les victimes et on reprendra le témoignage qui nous est arrivé de François sur lapremière.be en cliquant sur l'icône de l'émission.
11h midi sur La Première.
Question clé.
Question clé.
Avec Véronique Thiberghien.
Nous parlons aujourd'hui des alternatives de prison, particulièrement de la médiation judiciaire, la médiation pénale, et ce que fait sur le terrain l'ASBL Arpège Prélude. François réagit sur le site lapremière.be en cliquant sur l'icône de l'émission. Ce que vous pouvez vous-même faire, ou en nous envoyant un message par SMS au 6031 ou par téléphone, le 02 737 26 06. C'est Sandra qui prend vos appels aujourd'hui. Sandra Vara, c'est Catherine Sorel qui prépare cette émission et Sébastien Guillit aujourd'hui qui la met en onde avec beaucoup de courage, parce qu'il est très malade. François nous dit donc, et cela fait au moins 30 ans qu'on entend les politiques dire qu'il faut éviter au maximum la prison, puisqu'on sait que c'est l'école du crime. Mais nous avons l'impression que les différents gouvernements se limitent aux belles paroles. Il est évident que quand il s'agit de personnes ne mettant pas la sécurité des autres en danger, il faudrait se limiter à des punitions alternatives. La prison ne devrait être que l'ultime rempart, quand rien d'autre n'est possible pour protéger la société. Alors justement, Sandra de la faille. Est-ce que ça concerne toutes les personnes commettant un fait à l'encontre de la loi ou est-ce qu'il y a des restrictions ? Qui est concerné par ce type de peine alternative ?
Donc effectivement, ça ne concerne pas tout le monde. Les faits les plus graves qu'on appelait crimes mais qui, depuis la réforme Popoury 2, sont correctionnalisés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, les faits les plus graves restent passibles d'une peine d'emprisonnement. Sont concernés par la formation prélude, ce qu'on appelait les délits, donc c'est des faits pour lesquels on encourt une peine de maximum 5 ans d'emprisonnement. En sachant que ça, c'est la fourchette des peines et que 5 ans d'emprisonnement, ben, certains coups et blessures, avec incapacité de travail, on encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
Oui. Hein?
Oui. Donc, donc on a principalement dans nos groupes des gens qui sont là pour des faits de coups et blessures, de la simple bagarre, comme j'illustrais tout à l'heure, à une agression proprement dite, hein, ce que dans le grand public, on appelle une agression. Et aussi tout ce qui est vol, atteinte aux biens, à la propriété privée. Donc ça peut être des vols dans un véhicule, par exemple, un cambriolage dans un domicile. Ce genre de faits sont passibles aussi de passer chez nous. Le point commun à tous ces faits, c'est que il y a derrière le fait l'une ou l'autre personne qui a été victime. Puisque une des choses qu'on va travailler, c'est vraiment la sensibilisation au point de vue de la victime. Mmh. Et donc voilà, ce sont les faits pour lesquels nous pouvons être mandatés. Il y a d'autres ASBL qui donnent d'autres formations par rapport à d'autres types de faits, mais par rapport à notre public, c'est vraiment celui-là. Mais ce qui veut dire que c'est un public assez large, somme toute.
Ouais. J'étais surprise en regardant sur le site qu'il y avait une différence, par exemple, entre les coups et blessures, les auteurs de coups et blessures, et les auteurs de violences conjugales, qui eux sont exclus de la formation.
Oui, parce qu'il y a une SBL qui s'occupe de faits de violence intrafamiliale. Et la raison pour laquelle nous les avons, donc depuis fin des années 90, nous avons vraiment scindé le travail des deux ASBL, c'est parce que la relation entre l'auteur et la victime est très différente quand il s'agit de violence intrafamiliale ou conjugale que quand il s'agit d'une personne plus extérieure.
Et donc, c'est pas un rejet de ces cas-là
Non, pas du tout. C'est pour pouvoir spécifier au maximum la manière dont on va travailler justement ce rapport à la victime, qui est travaillé de manière symbolique, puisque jamais les victimes ne sont invitées dans nos groupes, hein, il faut quand même le préciser. Mais c'est vraiment, on va travailler sur, qui a subi des conséquences suite au délit commis, essayer de la personnifier au maximum cette victime à travers différents exercices. Mmh. Hein, donc vraiment, c'est demander à l'auteur de faire l'effort de se mettre progressivement, puisque c'est tout un processus, dans les baskets, j'ai envie de dire, de la victime, pour essayer d'imaginer comment cette personne a pu vivre le moment des faits et la suite, les conséquences qu'elle a pu avoir, elle et son entourage.
Justement, quelques exemples des exercices que vous faites avec ces personnes. On va donc retrouver nos monsieur A et C. Monsieur A a donc frappé un homme dans un bar. Monsieur C a lui commis un vol avec une arme factice. C'est important, j'imagine, que ça soit factice, l'arme. Si elle ne l'avait pas été, c'était un peu différent comme traitement ou... Je me demandais pourquoi on accentuait sur le côté factice de l'arme, justement.
Parce que parfois, les personnes ont l'impression que parce que c'est une arme factice, ce n'est pas grave.
D'accord, eh ben, on va y revenir. Voilà. Et puis, notre petite Madame B aussi, qui est entrée par effraction dans une maison pour commettre un vol. Exemple donc du travail fait avec ces personnes et arpège prélude.
Lors d'une mise en situation, Madame B devra se mettre d'accord avec d'autres personnes pour proposer un jugement dans le cadre d'un délit fictif. Par exemple, la priorité sera-t-elle de punir sévèrement l'auteur, de réparer les dommages causés ou de viser une prise de conscience qui diminuerait la récidive? À cette occasion, Madame B, pourtant très remontée contre la justice, prendra conscience de la nécessité de règles dans une société et de la difficulté d'appliquer celles-ci. Un autre exercice propose de travailler sur le contexte qui précède les faits. Les participants devront identifier les circonstances qui ont abouti à leur passage à l'acte. Monsieur A réalisera que frapper l'homme était un mauvais moyen d'évacuer des tensions qu'il vivait à cette époque. Il aura l'occasion de découvrir des outils pour éviter de telles accumulations, identifier les réelles sources de frustration et y répondre de façon non violente. Lors d'un autre exercice, les participants vont envisager l'ensemble des personnes touchées par leur délit et dresser les conséquences pour chacun. Certains prendront conscience de l'existence de victimes indirectes dans leur entourage et celui de la victime, mais aussi parmi les témoins du délit. Monsieur C pourra concevoir le traumatisme que le libraire a connu, ne sachant pas que l'arme était factice. Un témoignage vidéo d'une victime fera en outre comprendre à Madame B qu'un vol à domicile, même sans avoir croisé les propriétaires, peut avoir des conséquences psychologiques sur une famille entière.
La prise en compte de la victime. Pourquoi c'est important, Martin Moir?
Donc c'est vraiment la spécificité de notre formation et c'est quelque chose sur lequel on met l'accent en effet parce que on remarque souvent que les personnes arrivent et avec une non-reconnaissance de l'autre, donc c'est pas tout le monde mais c'est la plupart et c'est parce que c'est vraiment quelque chose, dans la justice on rentre dans une dualité un peu comme vous avez dit noir-blanc, auteur-victime et que le but c'est vraiment de sortir de là, mettre des nuances et de sortir de cette position de tout le temps justificatrice ou de défense, de dire ok, je peux reconnaître l'autre et les conséquences que mon acte a eu, et parce que dans une visée de responsabilisation, c'est super important d'assumer son acte et d'en assumer les conséquences que ça a pu avoir sur l'autre.
Pourquoi ? Parce qu'on note souvent que chez les auteurs de ce type de délit, il y a une espèce d'occultation systématique de la victime en elle-même et qu'on focalise essentiellement, et c'est le cas dans les procédures, dans les actes de justice, sur le fait et pas sur les conséquences.
En effet. Mais déjà, au moment du fait, parfois, ça peut arriver que, quand c'est des faits d'une grosse violence, il y a un moment où ne pas reconnaître l'autre, ça a permis l'auteur d'atteindre cette violence. De ne pas considérer l'autre vraiment comme quelqu'un qui pouvait vivre des conséquences.
C'est ça.
Et par la suite, en effet, dans les procédures judiciaires, il y a quelque chose où c'est vraiment un arrêt sur image. Hein. Donc le procès, c'est qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Et puis, on ne va pas nécessairement accorder énormément d'importance sur les conséquences, même si, par exemple, comme a dit Sandra, l'incapacité de travail, ça va rentrer en compte, etc. Mais il n'y a pas de travail autour de ça, et il n'y a pas d'opportunité, surtout, de réparer ce qu'on a occasionné chez l'autre.
Sandra Delafaye.
Oui, et souvent, on remarque que pas mal de participants arrivent dans la formation en colère.
Oui.
Ça peut paraître paradoxal.
Contre eux-mêmes, contre la victime,
contre la justice, voire contre la victime qui a porté plainte, les a emmenés en justice.
Ah
parce
oui.
qu'effectivement, comme disait Martin, la justice, elle vient trancher. Il y a l'auteur d'un côté, comme s'il avait toute la responsabilité de ce qui s'était passé, et la victime qui n'aurait aucune responsabilité. Alors, au niveau judiciaire, c'est une forme de vérité, mais c'est vrai que dans la vie des personnes et comment elles ont vécu les choses, ben on voit que travailler sur le contexte, ce qui a amené à passer à l'acte ce jour-là, de cette façon-là, réagir comme ça ce jour-là, ben, la justice n'en tient pas compte. Et donc ça éveille beaucoup de colère parce que les auteurs ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Et souvent, ben, certains passages à l'acte s'expliquent parce que les gens ont l'impression de ne pas être entendus, de ne pas pouvoir s'exprimer. Et à un moment donné, ça sort sous forme de violence. Et donc là, effectivement, pouvoir les faire réfléchir là-dessus, les entendre là-dessus, est une manière de dépasser la colère. Et petit à petit, être entendu permet d'entendre l'autre, de s'ouvrir au point de vue de l'autre.
Est-ce qu'il y a un contact entre les victimes et les auteurs des faits ?
Pas dans le cadre de notre formation.
Oui.
Maintenant, il y a une ASBL qui s'appelle Médiante, qui est vraiment chargé de rétablir des ponts entre les auteurs et les victimes, même en dehors de tout cadre judiciaire.
Mmh.
Donc ça veut dire que qu'on soit auteur ou victime, on peut s'adresser à cette ASBL et leur demander d'essayer de rétablir des ponts.
Parce que j'imagine qu'il y a il doit y avoir des victimes qui n'en ont pas du tout envie ou qui n'en ont pas besoin, mais on entend quand même régulièrement dans des reportages liés à toute une série de faits de ce type, des victimes qui disent mais j'aimerais bien lui dire le mal qu'il m'a fait, lui exprimer le mal qu'il m'a fait, et qu'il y a une frustration aussi de ce point de vue-là, en disant bah, « la société me reconnaît comme victime, c'est sûr, mais peut-être pas lui, et j'ai besoin de lui dire ça ».
Oui, alors c'est vrai que la formation Prélude a peu apporté, justement, par rapport aux victimes, peut leur apporter l'idée que l'auteur, déjà, il n'y a pas d'impunité,
oui.
hein, et qu'en plus, il y aura une prise en compte symbolique de la victime. Alors c'est presque, j'ai envie de dire, un premier travail avant éventuellement une médiation, mais là il faut que les deux soient d'accord, que les conditions soient réunies.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, il y a ce travail symbolique qui est fait par rapport à la victime. On va la personnifier, on va lui accorder une place et on va demander à l'auteur d'essayer d'en tenir compte et de voir quelle part de responsabilité il va s'attribuer, somme toute, à lui. Qu'est-ce qu'il va pouvoir reprendre à son compte, qu'est-ce qu'il va pouvoir assumer comme part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Olivier est avocat, il a réagi au 02 737 26 06 pour préciser, attention, ne pas confondre de simples délits avec des faits graves. Une bagarre lors d'une fancifère est un simple délit, ce qui veut dire que sauf si la personne est récidiviste ou que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, l'affaire est classée sans suite. Mais jamais on ne va en prison pour ce genre de délit. D'un autre côté, perso, je me fais casser la figure même à une fancifère, j'ai pas envie que ça reste sans suite, quelque part. Enfin, je vous donne un avis personnel sur le moment. Pas d'intérêt. Par contre, un vol avec violence, même avec une arme factice, ce qui était le cas dans nos exemples du monsieur C, est un crime, pas un délit, même si en pratique il est correctionnalisé. Par ailleurs, il faut savoir qu'une minorité d'auteurs de crimes représentent un danger pour la société et doivent être mis à l'écart avec un programme de réinsertion sociale. Je n'en disconviens pas. Mais ils doivent aller en prison. La prison n'est pas alors une punition, mais une protection de la société. Il ne faut surtout pas les confondre avec les auteurs d'un délit, comme une bagarre de fancifère. Peut-être qu'on a pas fait suffisamment la différence, Martin Moir, pour y réagir.
En effet, là, je remarque qu'il y a une différence qui est faite entre comme s'il y avait des criminels, enfin des délinquants nés, et puis des personnes qui un jour vont peut-être péter un câble à la fancifère. Nous, ce qu'on observe, c'est que il n'y a pas vraiment de gens violents, c'est juste des gens qui sont amenés à un moment à commettre un acte violent. Alors il y a des gens qui vivent dans un contexte qui va les amener plusieurs fois à commettre un acte violent, mais on ne peut pas diviser comme ça les deux personnes, même si j'entends quand même la différence. Et pour un cas, nous, on est quand même dans l'expérience que, par exemple, une bagarre qu'il peut y avoir dans une fancifère, il y a quand même des suites. Et donc, on a affaire aux deux types de personnes, si on peut parler de deux types de personnes, dans nos formations.
Je ne serais pas contente, en tout cas, si je me faisais la casser la figure dans une fancifère, de savoir que même si je vais porter plainte, il n'y aura pas de suite. Personnellement, en tant que victime, je me dis, alors je ne sais pas comment, dans les faits, je peux comprendre qu'on n'aille pas non plus dépenser l'argent de la société pour ce genre de choses, mais dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, savoir qu'il n'y a pas de suite, d'abord, ça décourage ensuite les gens à déposer plainte, et peut-être que ça les motive, malheureusement, à faire parfois justice eux-mêmes, et donc à poursuivre une espèce d'animosité qui peut exister comme ça entre deux personnes, d'autant plus qu'on est dans le cadre d'une école, et que les enfants vont avoir, oh là là, je me fais un scénario, il y a un film à faire, je pense, derrière. Mais merci Olivier pour cette précision importante aussi.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé avec Véronique Thibergien.
Avec Martin Amoire et Sandra Delafaye pour l'association Arpège Prélude. On parle concrètement de ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui comme offre d'alternative de peine avec des initiatives qu'on connaît assez peu dans le grand public et notamment les formations Prélude sur lesquelles on va revenir de manière très concrète. Alors, on l'a dit, la formation Prélude, c'est pas une psychothérapie, c'est pas non plus des ateliers créatifs pendant lesquels on va épanouir sa créativité, ce qui peut avoir de l'intérêt, mais pas dans ce cadre-ci. Vous faites des formations qui s'étalent sur un peu plus de deux mois. Ça dure 50 heures. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, on a vu quelques exemples, hein, des ateliers, des exercices de réflexion, de débat, soit pour amener la personne à se sensibiliser et à comprendre les portées de l'acte sur la victime, à mieux comprendre ce que la victime a pu ressentir. Il y a aussi des débats autour de la citoyenneté et autres exercices qui sont proposés. Comment ça se passe? C'est réparti? C'est encadré? Sandra Delafaye.
Alors, ce sont des groupes de 6 à 10 personnes qu'on réunit une à deux fois par semaine pour des séances de 3 heures à chaque fois. Ces séances sont encadrées par deux formateurs, deux intervenants de l'ASBL. Et ces personnes, on les sélectionne sur base d'arrivée des dossiers chez nous. Donc voilà, plus ou moins aléatoirement.
Ah, c'est vous qui sélectionnez? C'est pas le juge qui vous dit non, celui-là, vous vous en occupez?
Non, les juges nous les envoient. C'est donc ça, hein, on reçoit une fiche d'inscription via la maison de justice, hein, puisque c'est pas le juge directement, ça passe par la maison de justice. Et donc nous, une fois qu'on a un nombre suffisant pour organiser un groupe, on met un groupe en place. Les groupes sont mis en place dans les différentes villes de Wallonie et de Bruxelles. Et donc, effectivement, un groupe, ça dure plus ou moins un trimestre, avec un entretien au début, un entretien à la fin. Ça fait un trimestre total. C'est 50 heures au total, réparties donc sur un trimestre, où les personnes doivent venir en respectant certaines règles de participation. Donc, elles doivent venir à l'heure, à chaque séance. Donc, ce qui est une contrainte qui peut être assez lourde pour certains, puisque c'est venir en dehors de ces heures de travail ou de formation, qui sont aussi des conditions judiciaires en général. Et puis participer activement à tous les exercices proposés. Donc là, il y a quand même, pour le juge, la garantie que vraiment la personne ne va pas pouvoir venir et subir sa sanction. Elle va devoir participer activement aux exercices de réflexion. Hein, et comme vous l'avez dit, il y a 3 thèmes principaux. Il y a la citoyenneté, la gestion des conflits et la sensibilisation au point de vue des victimes. Et donc, à travers ces différents thèmes, on va les faire réfléchir sur base d'exercices. Et ils vont devoir donner leur avis, participer, partir d'exemples qu'eux ont vécu, revenir sur les faits qu'ils ont commis, qui les ont emmenés en formation. Et donc voilà, tous ces exercices vont les amener à progressivement réfléchir ensemble. Et c'est un travail de groupe, donc ça c'est vraiment important, l'outil groupe, parce que le fait d'avoir choisi de travailler en groupe de manière privilégiée, c'est vraiment pour favoriser cet échange et utiliser les relations qui se créent dans le groupe comme un peu terrain d'expérience concret. Quand on va parler de gestion des conflits, puisqu'on vous disait que beaucoup de nos participants sont là pour des coups et blessures, on va utiliser tout ce qui se passe dans le groupe pour travailler autrement les conflits. Comment faire quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, pour le dire de manière respectueuse, en se faisant entendre, hein, pas s'écraser. C'est pas l'idée de s'écraser. C'est l'idée de comment je peux faire entendre ce que j'ai à dire tout en respectant le point de vue de l'autre qui peut être différent du mien.
C'est le cas de Monsieur A dans le voilà dans l'exemple. Un podcast cet après-midi pour ceux qui ont raté le début. Monsieur A qui est donc dans un bar, il a passé une mauvaise journée, il est bousculé par quelqu'un, le ton monte et la bagarre explose. Il défigure un peu la personne qui est en face de lui, entre guillemets bien sûr. Ici, dans le cadre de la gestion des conflits, on va essayer de comprendre ce qui l'a mené là. Est-ce que ça n'a pas une forme aussi de chercher des excuses à un comportement, Martin Amoir?
En effet, ça pourrait être vu comme ça, oui. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Donc c'est vraiment, par exemple, un exercice concret, ben, ça va être de faire une ligne du temps. On va demander à la personne de penser à tous les éléments qui, pour elle, sont reliés au fait. Qu'est-ce qui l'a amené à commettre ce fait? Et donc, oui, ça peut être dit excuse, mais moi je vois ça plus comme, voilà, c'est essayer de comprendre comment j'en suis arrivé là, ouais. Pour comprendre comment je peux ne plus en arriver là. Et donc il y a vraiment un objectif qui n'est pas d'excuser, de justifier, mais un objectif qui est d'essayer de permettre de plus recommencer et de non-récidive. Et donc on reste vraiment dans un objectif voilà, de sanctions pénales et pas dans une thérapie.
C'est ça, c'est identifier ici les déclencheurs pour que, éventuellement, si la situation devait se représenter, la personne puisse se dire, attention, je suis dans tel cadre qui m'a mené déjà très loin, là, il faut que j'agisse, mais différemment, et que je trouve d'autres outils pour gérer ce que je suis en train de vivre aujourd'hui.
En effet, et ça termine souvent. Parfois, quelqu'un dit, mais voilà, à ce moment-là, j'étais en tension financière, j'avais telle personne de ma famille qui était partie pour telle raison, j'étais dans un contexte difficile. Et puis, on discute et on dit, mais aujourd'hui, t'es dans la même situation. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, ça va plus se reproduire, ça? Si quelqu'un te bouscule dans la rue, par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, tu vas pas rentrer dedans? Et donc, c'est vraiment un parallèle avec, c'est pas des excuses, c'est un parallèle avec qu'est-ce qu'il a amené avant à commettre ça. Et qu'est-ce qui va le permettre aujourd'hui à ne plus recommencer?
Et je lisais en préparant aussi cette émission qu'un des points communs, à la fois souvent des victimes et des personnes qui sont auteurs des faits, qu'il y avait une espèce de défiance par rapport à la justice de manière générale aujourd'hui. Est-ce que ce type de prise en charge un peu différente, où il y a quand même aussi beaucoup de discussions, justement beaucoup de dialogues, c'est pas une manière de renouer avec l'aspect judiciaire
Dans le sens où renouer...
Réapporter une confiance dans le système et dans cet esprit de justice. Hein. Ce n'est pas forcément l'appareil judiciaire, mais c'est l'esprit justice qui est mis à mal aujourd'hui dans notre société.
Exactement, et c'est pour ça qu'on est un peu dans un mouvement qui s'appelle la justice réparatrice, qui est de réparer un lien, entre autres, avec le socle social qui est la justice. Et donc c'est vrai que les personnes arrivent souvent avec un sentiment d'injustice, avec une vision, disons que le système judiciaire, il est compliqué. Et donc je pense que la plupart d'entre nous, on a une image un peu de la justice qui est simplifiée, et de la société. Mmh. Et donc les gens souvent arrivent avec une idée d'injustice, avec une idée assez noire de la justice, parce que un procès, c'est assez violent, hein, pour les gens qui sont passés devant, c'est un truc qui symboliquement en impose quand même. Et donc le but, c'est vraiment d'essayer de désamorcer et de réfléchir, mais voilà, on va essayer de... Aussi par rapport à l'actualité, on entend l'actualité où il y a des politiques qui peuvent se mêler de la justice, et donc on peut avoir une idée d'une justice corrompue parfois, on peut un truc tout brouillon où on va mettre tout coloré noir. Et le but, c'est en informant, en essayant d'écouter un peu leur vécu d'injustice, en informant sur la séparation des pouvoirs par exemple, ça va être quelque chose où vraiment on va essayer d'amener la personne à... Un, quitter un peu son sentiment d'injustice, et deuxièmement aussi d'adopter une place. Mmh. Et ça peut être une place critique, c'est pas du formatage qu'on fait, mais c'est prendre une place dans la société qui peut être critique, mais au moins prendre une place.
Sandra,
ben par exemple, un outil concret, hein, pour essayer de rendre les choses un peu concrètes, c'est on va donner aux participants un fait du même style que ce pourquoi il est là. Par exemple, une bagarre dans une soirée ou un vol. Et on va leur demander, eux, si vous étiez un jury citoyen, qui deviez décider ce que vous donneriez comme sanction à ces faits-là. Et ce que vous proposeriez comme mesure, que ce soit pour l'auteur, pour la victime, mais pour toutes les personnes impliquées dans les faits, qu'est-ce que vous décideriez? Et donc là, c'est vraiment les faire réfléchir sur mais à quoi ça sert la justice? Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que citoyen? Et si on est auteur. Si on est victime, qu'est-ce qu'on attend de la justice? Et donc, c'est vraiment, à travers des exercices comme ça, on va les faire réfléchir là-dessus. Et on voit que certains groupes ont des idées assez novatrices, qui ne sont plus dans une... Certains vont être plus sévères encore que la justice actuelle, vont être encore plus répressifs.
Dans le même cas qu'eux, mais ils seront plus
sévères. Voilà, ils seront encore plus sévères. Et par contre, d'autres vont proposer des solutions qui vont dans l'idée de médiation, de rencontre entre l'auteur et la victime, de partir de ce que eux, s'ils étaient à la place de la victime, de quoi ils auraient besoin.
C'est ça.
Donc voilà, on va essayer de leur proposer tous des outils qui vont leur permettre de réfléchir à ça. Et chaque outil, on peut dire, va un peu dans le même sens. Et l'un va prendre plutôt tel exercice, ça va lui apporter vraiment une clé de réflexion. Un autre, ce sera un autre. Ça peut être la réflexion de quelqu'un d'autre dans le groupe, parce qu'il s'interpelle beaucoup. Et l'interpellation des uns et des autres a beaucoup plus d'impact que si c'est un professionnel qui vient leur dire « mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Parce qu'évidemment, ils vont pouvoir lui dire comme ça, dire « mais tu te rends compte un peu de ce que tu as fait, l'effet que ça a eu sur l'autre ?» Ils peuvent y aller très cash entre eux, puisqu'ils se parlent d'égal à égal.
Et ils ne se privent pas.
Ils ne se privent pas. Non.
Allez, on reparle de médiation pénale dans quelques instants.
11h midi.
Question clé.
Question clé sur la première.
Avec Véronique Thiberghien.
Olivier a rappelé pour dire, je précise que les délits de coups et blessures volontaires n'est en pratique classé sans suite que si les victimes a été indemnisée. Merci pour cette précision. Perso, ça me rassure vu le scénario que je m'étais déjà monté dans la tête. On va parler de médiation judiciaire. Comme on vous l'a dit, la médiation judiciaire, elle est organisée par la loi du 10 février 1994. Elle donne la possibilité aux instances judiciaires de proposer une formation à titre de condition spécifique de l'extinction de l'action publique. Exemple et extrait du reportage de Dominique Burge, diffusé au JT il y a quelques semaines.
Maison de justice de Tournai, Fred a rendez-vous avec son assistante de justice. Il est auteur de coups et blessures sur la voie publique. Sa victime a la mâchoire cassée et doit subir 3 opérations. Tous les deux ont accepté une médiation pénale. Fred nous explique son choix.
Que la médiation permet aux personnes d'éviter les tribunaux, les frais de tribunaux. Comme moi, j'ai un gros passé. Et la médiation me permettrait de ne pas rentrer en prison. Quoi. La prison en ressort un peu plus pire. Donc comme j'ai un bébé de 14 mois, je suis juste marié. Donc ça me permettrait de rester avec ma famille.
La victime, elle, n'a pas souhaité s'exprimer. Fred a commencé à l'indemniser. Il accepte aussi de suivre une formation pour gérer son impulsivité. Une démarche difficile pour lui. Il en discute avec l'assistante de justice.
Il faut que vous puissiez trouver des solutions si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous agresse. Se dire, ben voilà, je suis dans le conflit, ça, je sens que ça monte, je sens que je risque de porter un coup, de nouveau avoir des problèmes avec la justice. Est-ce que je ne changerai pas de trottoir? Et ce n'est pas l'âge de faire ça. C'est quelque part être intelligent d'une certaine manière. Mais pour vous, ce n'est pas, c'est pas comme ça que vous le percevez?
Non. J'ai toujours été battu en étant jeune. Et j'ai toujours dit, maintenant, on ne me touchera plus. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui me touche.
On fait plutôt de la médiation indirecte, où je reçois donc la victime et l'auteur séparément, et j'essaie de les aider à trouver leur accord, mais sans que pour autant ils se rencontrent. Donc je les contacte l'un et l'autre en expliquant le point de vue de chacun pour obtenir un accord.
L'assistante de justice est mandatée par le procureur du roi. C'est lui qui décide d'envoyer un dossier en médiation en fonction de certains critères. L'auteur doit être majeur et doit reconnaître les faits. Une fois que l'assistante de justice est arrivée à un accord entre les deux parties, le procureur organise une audience de médiation. Pour ce magistrat, cette procédure est assez efficace.
Les dossiers en matière de violence intrafamiliale ont un meilleur taux de réussite que s'ils sont amenés devant le tribunal correctionnel. Les gens ont tendance à plus récidiver s'ils ont été cités devant le tribunal que s'ils viennent en médiation.
La violence intrafamiliale a amené Vanessa et Anaïs à suivre aussi une médiation pénale. Elles sont en couple et Vanessa était très violente envers sa compagne.
Dès le matin, vers 8-9h, j'allais chercher carrément des grandes canettes 50 centilitres et je les buvais comme ça de la journée, quoi. Et au fur et à mesure, la haine que j'avais à l'intérieur de moi et par rapport à mon passé, c'est comme ça que j'explosais, quoi.
Moi, j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'ai eu des fameux coups et blessures quand même, sur pratiquement tout le corps, plusieurs fois. Je n'étais plus capable de me lever le matin et de la regarder en face. J'avais peur pour moi-même dès que je me levais le matin, quoi.
Ça aurait pu aller même plus loin que ça.
Elle me l'a déjà dit, hein. Parfois, j'ai envie de te tuer, quoi.
Anaïs, la victime, s'est sentie comprise, soutenue par l'assistante de justice.
Ça m'a aidée à me sentir mieux, en fait. À ne plus la laisser aussi avoir cette emprise sur moi-même. Donc la médiation m'a vraiment aidée dans ce sens-là, pour dire que ben, je suis victime, en fait, et je ne suis pas, je suis pas rien, en fait.
Vanessa, l'auteur, a finalement accepté de se faire soigner dans un service psychiatrique.
J'ai envie de me soigner jusqu'au bout et puis prouver à ma compagne que je peux être quelqu'un d'autre que par rapport à ce que je lui ai fait subir dans le passé.
Aujourd'hui, elles ont pu retrouver des moments de complicité. Et si Vanessa va jusqu'au bout de la médiation, l'action publique sera éteinte, son casier judiciaire restera vierge. C'est le cas dans 45% des dossiers. Si la procédure échoue, le procureur reprend la main et peut renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Reportage diffusé dans le JT de la RTBF de Dominique Burge le 20 novembre 2016 pour le retrouver sur la plateforme Ovio. Quel taux de réussite avec Arpège Prélude ? Est-ce que ça marche, Sandra Delafaye ? Ça fait quelques années que vous travaillez. Est-ce que vous avez le sentiment que ça fonctionne vraiment, sans forcément entrer dans les chiffres ?
Écoutez, on n'a pas d'évaluation quantitative au sens large. Comme on est toujours considéré comme une alternative, ce n'est pas, je ne peux pas vous donner des chiffres. Maintenant, je peux parler, moi, de mes impressions. C'est vrai que là où, je dirais, sans doute, on perd, entre guillemets, le plus de personnes, c'est avant qu'ils n'entrent dans le groupe. Mais une fois que les personnes sont effectivement entrées dans un groupe, et commence la formation, on a quand même la grande majorité, donc quand je parle de la grande majorité, je dirais 75 à 80% des personnes qui vont jusqu'au bout de leur processus de formation. Et c'est vrai que dans mon expérience, dans mon vécu, ben, une personne qui rentre dans un groupe, son discours a évolué. Au fur et à mesure des mois qui passent, des séances qui passent, son discours a évolué. Alors, ça dépend du point de départ. Certains arrivent, comme je vous le disais, très en colère, très remontés contre la justice, rejetant toute la responsabilité sur l'autre, sur la victime. On ne va pas, en 50 heures, les faire complètement basculer dans l'empathie complète vis-à-vis de la victime. Certains, oui, mais enfin, ça reste, je ne vais pas vous mentir. C'est... Mais quand même, on va faire évoluer les choses. La colère va être retombée. Ils vont pouvoir assumer une certaine part de responsabilité. Pour d'autres qui arrivent déjà avec une certaine prise de conscience, eh bien, le bout de chemin va être fait et donc va les pousser un peu plus loin. Donc, j'ai envie de dire que la formation... C'est une étape. C'est une étape de franchie. Et en fonction du point de départ, ben, l'arrivée, elle est plus ou moins différente. Et en fonction des groupes aussi. La dynamique de groupe va faire que dans certains groupes, les gens vont s'impliquer à la limite plus que ce qui est exigé par la justice. Ils vont vraiment saisir cette occasion pour réfléchir ensemble, pour rebondir, pour se remettre en question par rapport à, on disait, à tous les éléments de contexte qui les ont amenés à réagir comme ça, pour essayer de trouver d'autres solutions possible pour eux. D'autres vont faire le minimum, mais le minimum, c'est quand même déjà de prendre conscience et de réfléchir par rapport à, en participant à tous les exercices qu'on propose. Voilà, donc je peux pas vous dire qu'il y a que c'est un remède miracle, hein. Ça, je voudrais pas mentir non plus, mais je pense que ça va dans, c'est quelque chose qui va pousser en tout cas les gens dans le bon sens, dans le sens de mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ça se reproduise un peu moins, pour comprendre un petit peu ce qui se passe.
Ou plus du tout.
Ou plus du tout. Mais il y a malheureusement beaucoup d'éléments de contexte qui n'appartiennent pas aussi à la personne. Quand Martin disait ben, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est complètement désocialisé, ben voilà, c'est une petite étape, ça va peut-être lui ouvrir des pistes pour voir comment, où le bât blesse et où, comment est-ce qu'il peut essayer de se raccrocher. On peut les réorienter vers d'autres structures aussi, après la formation. Mais on n'a pas de baguette magique pour réparer tout ce qui va mal dans le social non plus.
Ouais. Martin, à moi, votre sentiment, vous qui êtes plus, depuis plus récemment dans l'association, en une minute ?
Moi, je suis assez positif. non, mais vraiment qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques et on n'est pas dans, et on n'est pas dans une logique de rentabilité. Mais pour prendre un autre exemple que quelqu'un qui n'a pas de travail, pour ne pas dresser un portrait non plus du délinquant qui vit dans la précarité et tout, par exemple... Voilà, dernièrement, il y a des gens qui travaillent tout le temps sous tension. Et bien, la formation, généralement, c'est un moment de pause où ça permet aux gens, et c'est quelque chose qu'encore un participant m'a renvoyé, c'est que ça a été un moment où ils pouvaient mettre la pause, se rendre compte à quel point il était sous tension, se rendre compte de toutes les tensions qu'il vivait pour le moment. Et à la fin, il a dit, Mais voilà, là, je me rends compte qu'en fait, c'est ça qui m'a amené là. Et que chaque fois que je venais le mardi, je me disais, mais c'est normal que je pète un câble. Et depuis, il a, par exemple, fait des tris dans ses activités.
Ce qui n'est pas plus mal. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation. Hein, et pourquoi pas détendre encore vos activités. arpège-prélude.be pour en savoir plus. Merci à vous, Sandra Delafaye et Martin Amoir, d'être venus dans cette émission pour nous parler de ce sujet. Et j'espère qu'on aura suscité la curiosité chez vous qui nous écoutez. En tout cas, nous, on se retrouve demain. On parle bonne humeur demain.
Podcast, la première.